répète, le whip est parti, garde son poste de député. Éric Lefebvre va se présenter avec les conservateurs. Est-ce que vous avez une chance de gagner son comté, vous pensez?
Oui. Oui, comme
ça me semble une terre assez conservatrice.
Rappelez-vous, dans Jean Talon, on n'avait jamais gagné Jean Talon de toute notre histoire. On ne partait pas en avance. On a une chance. On a vraiment une chance légitime. Est-ce qu'on est en... Tu sais, il n'y a aucune garantie. Il faut prendre ça très au sérieux. Mais est-ce que c'est faisable de réussir cet exploit-là? Oui, c'est faisable. Et on, comme dans toute chose, on va donner le meilleur de nous-mêmes, se préparer. Et peut-être qu'il y aura d'autres partiels aussi. Hein? C'est pas exclu.
Parce que vous, il y a peut-être d'autres caquistes qui vont démissionner. Voilà. Entendez-vous des bruits?
Ben, c'est que... Un parti comme le Parti québécois, quand on a traversé les moments plus difficiles... Il y avait quand même un ancrage très profond, une adhésion au pourquoi du Parti québécois. Le pourquoi de la CAQ me semble très flou. Et donc, c'est pas exclu que d'autres personnes prennent des décisions en fonction de leurs intérêts, de leur cheminement professionnel et non pas de la cause de ce parti-là.
Donc, Éric Lefebvre qui s'en va avec Pierre Poilievre. Je suis curieux d'avoir votre point de vue sur Pierre Poilievre, qui est la star en politique canadienne, domine dans toutes les régions du Canada, sauf le Québec. Pourquoi il pogne, vous pensez?
Il pratique un style de politique qui n'a pas encore percolé ou n'existe pas à proprement dit sur la scène québécoise, qui est vraiment les superlatifs, une forme d'agressivité même pour diviser en deux groupes la population. On l'a vu pour les maires de Québec et de Montréal. On peut être critique d'une mairie, mais des charges vraiment frontales avec un ton qui semble plaire ailleurs dans le Canada. Mais il faut dire aussi que tu sais, quand on regarde un certain nombre d'éditoriaux et de sondages au Canada qui portent le thème de « Canada is broken ».
Le Canada est brisé.
Le Canada est brisé selon plusieurs Canadiens. Historiquement, il n'y avait que le Québec pour dire « Le Canada est brisé, en tout cas en ce qui concerne notre avenir et nos intérêts ». Cette idée-là, maintenant, elle est généralisée. Plusieurs personnes se posent la question « À quoi sert le Canada ?» Et pourquoi je laisserais un gouvernement par-dessus mon gouvernement m'endetter à ce point en échange de presque aucun service? Donc, Pierre Poilievre semble être capable de canaliser une insatisfaction vraiment marquée, pas juste au Québec. Son style, par contre, ne convient pas. Certaines de ses positions aussi sont identiques à celles de Justin Trudeau en termes de respecter l'autonomie du Québec, les lois du Québec. Donc, je pense que le Québec, à nouveau, sera figure d'exception, mais... Dernière chose aussi, c'est que c'est un système à deux parties, là. Donc, il y a une alternance aussi naturelle, parce que clairement, les libéraux de Justin Trudeau sont en fin de parcours, là.
Merci de votre visite, M. Saint-Pierre-Plamondon.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée. C'était Paul Saint-Pierre-Plamondon, le chef du Parti québécois.
CFX 93, son équipe et le studio McDonald's. Un trio de champions. CFX FM 93.
Le Québec maintenant. Maintenant, votre point de repère.
Le Québec maintenant.
Philippe Quentin est là pour sa première chronique de la semaine. Salut Philippe.
Salut Patrick.
Tu veux réagir à l'entrevue avec M. Saint-Pierre Plamondon?
Ben oui, c'était intéressant de l'entendre. J'ai l'impression, Patrick, je l'écoute, puis évidemment, ses discours et ses propos des derniers jours ont fait beaucoup jaser. Là, c'était des propos très, très durs sur le Canada, sur les liens entre le Québec et le Canada. Beaucoup de gens ont perçu du ressentiment, c'est-à-dire qu'un projet porté par Paul Saint-Pierre Plamondon qui est beaucoup plus axé ou beaucoup plus ancré dans le passé, dans ce qu'on reproche historiquement à la relation Québec-Canada, plutôt que dans l'avenir, plutôt qu'un projet axé vers l'avenir. Et là, je l'écoute en entrevue et j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il passe à une autre étape. Il dit, on a un projet porteur, c'est ce qu'il vient de dire à ton micro. On n'entend pas beaucoup parler de ce projet porteur-là. Il parle beaucoup de ce qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Il dit, bon, il en a parlé encore du budget Freeland, les champs de compétences du Québec sont attaqués. On l'a beaucoup entendu là-dessus. Mais en quoi la souveraineté du Québec va devenir une façon d'avoir un meilleur avenir? À mon avis, il y a un grand, grand travail à faire là-dessus pour essayer d'emballer les gens, parce qu'à l'heure actuelle, il ne propose pas quelque chose qui est spontanément emballant. Il nous dit que ça va aller mieux parce que ça va mal à l'heure actuelle. Je sais pas si c'est suffisant pour faire passer l'option de 36 à 51
%. OK, parlons de l'Ukraine. Il y a eu une victoire politique pour l'Ukraine au Congrès américain. Ouais. Faut le dire, depuis des mois, il y a une poignée d'élus républicains qui s'opposaient, là, coûte que coûte, à toute aide à l'Ukraine, ben ça a débloqué en fin de semaine.
Oui, tu as tellement raison de dire une poignée d'élus. Mmh. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Pourquoi ça a pris tant de temps alors qu'on voit là, que quand les gens ont pu voter de façon libre, ça a été adopté de façon très, très claire, une immense majorité. Tous les démocrates ont voté pour, un petit peu moins que la moitié des républicains ont voté pour, donc ça passait très facilement.
Deux tiers de la Chambre ont voté pour.
Exactement, et pourtant, ça a pris tout ce temps-là. Alors, c'est une bonne nouvelle, il y a des gagnants dans tout ça, puis il y a des perdants. Premier gagnant, bien sûr, Volodymyr Zelensky et l'Ukraine, là, qui sont les sent épuisés depuis des semaines maintenant face aux assauts russes, face à ce financement américain qui tardait à se matérialiser. Alors, pour eux, c'est sûr que c'est un immense soulagement. Maintenant, attendons, il n'y a rien qui est encore complètement avalisé. Ça va se passer demain au Sénat. Donc, demain, cette aide-là devrait officiellement être votée. L'autre gagnant, clairement, c'est Joe Biden. Biden, malgré tous les camouflets qu'il a essuyés de la part des représentants MAGA au Congrès qui ont dit non jamais, parce que Donald Trump nous le demande, on va aider l'Ukraine. Non jamais, on va voter en faveur de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine si on règle pas le problème de l'immigration à la frontière sud. Là, il y a rien sur la frontière sud dans tout ça. Et pourtant, le paquet d'argent, il vient d'être voté. Alors, pour Biden, grande, grande victoire. On le mésestime très souvent, Joe Biden. C'est pas mal l'histoire de sa carrière politique. Trump semblait avoir le vent dans les voiles, meneur dans les sondages. Il était opposé à l'aide ukrainienne. Et là, voilà que cette aide-là est votée et en partie par un grand, grand nombre de républicains.
Mais la question fondamentale, Philippe, c'est est-ce que cette aide-là arrive trop tard pour les Ukrainiens?
C'est de la question, malheureusement, qu'il faut se poser. J'ai l'impression que peut-être un peu, j'ai l'impression que ça va permettre à l'Ukraine de continuer à se battre, de se battre longtemps. Parce que les Russes, là, clairement, ils arrêteront pas. Ils ont des réserves en hommes qui sont à peu près inépuisables. Les Ukrainiens, c'est plus compliqué. Donc, je pense qu'ils viennent d'acheter peut-être un an et demi, deux ans encore, de pouvoir lutter. Mais tout à coup, là, on risque de s'enliser dans un statu quo. Et malgré cette aide-là de 61 milliards de dollars, on voit pas comme on voyait à la même époque l'an dernier, souviens-toi Patrick, la perspective d'une percée ukrainienne qui briserait la ligne de front russe, qui aurait divisé l'armée russe en deux parties, qui permettrait éventuellement même aux Ukrainiens de conquérir, de retrouver des parties de la Crimée. On voit pas ça à l'heure actuelle. Par contre, à court terme, je pense que ça peut faire un changement, parce que là, les gens voient peut-être ça et disent hey, 60 milliards de dollars, c'est bien, mais ça va prendre combien de temps avant que les Ukrainiens obtiennent cette aide-là, qu'ils en retirent les bénéfices très, très concret. Ben, la réponse à ça, au moins, elle est encourageante. C'est très, très rapide, probablement dès cette semaine. Parce que la réalité, c'est qu'il y a dans des entrepôts en Europe, sur des bases militaires américaines, des tas d'armes qui attendent, là, qui attendent simplement d'être transférées en territoire ukrainien. Donc, ça va aller vite. Maintenant, il y a une question. Quel genre d'armes vont être transférées? Et là, il y a une arme qui est beaucoup plus puissante que les Ukrainiens réclament depuis très, très longtemps. On appelle ça le ATACM. ATACM, ça permet de lancer des projectiles à près de 300 kilomètres. Les Américains ont toujours été très, très réticents d'en donner à l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que l'Ukraine attaque à l'intérieur des frontières russes. Et Biden a toujours craint qu'un incident comme celui-là puisse déclencher une éventuelle troisième guerre mondiale. Alors, est-ce qu'ils vont en donner? Est-ce qu'ils en donneront pas? Les Américains sont restés très, très circonspects sur cette question-là. Mais ça aussi, à mon avis, c'est un enjeu assez important.
À demain, Philippe. Salut. Merci. OK, Pierre-Yves s'en vient.
Le Saloon.
Salut, c'est Nicolas Prévost. Ça me fait plaisir de vous retrouver samedi et dimanche pour la seule émission dédiée à cette industrie musicale dominante au Québec maintenant. Et je vais vous faire jouer les plus grands succès de la musique country. Take me down where the beer is cold, the fish get fried and the fireflies glow. My life was black and white, but she's the painter. She does, she feels wild.
Écoutez Le Saloon.
Le Saloon.
Tous les samedis et dimanches.
Avec Nicolas Prévost.
Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
C'est le sprint du printemps au Santé 2000. Profitez des promotions anti-inflation de Santé 2000 Le Club allant de 15 à 50% pour un été en santé. Joignez l'utile à l'agréable. S'entraîner à deux, c'est mieux et c'est moins dispendieux. On double les rabais sur les abonnements étudiants en duo de 3 et 6 mois. Santé 2000 Le Club est en mode anti-inflation avec des rabais allant de 15 à 30% sur nos abonnements en salle, les cours de groupe et les combos. Prenez votre santé en main à partir de 1,25$ par jour. Bienvenue au club! Inscription santé2000leclub.com, certaines conditions s'appliquent.
Avril et le soleil sont déjà de retour et les portes de la résidence Seigneur Lepage sont grandes ouvertes pour accueillir de nouveaux résidents. Courez en plus la chance de gagner un mois de loyer gratuit. Prenez congé de la lessive, du ménage et des repas. Installez-vous confortablement dans une résidence pour aînés qui a du cœur. Une résidence où vous vous sentirez tantôt comme au resto, tantôt comme à l'hôtel, mais toujours comme chez vous, à la résidence Seigneur Lepage de Rimouski. Contactez Mélanie au 418-723-0243. Elle vous expliquera les règles de notre concours et l'ensemble des services offerts par notre résidence.
Groupe Emploi. Vous aimez les Ram, les Dodge, les Jeep? Michaud Auto, un concessionnaire familial solide en affaires depuis 105 ans, est à la recherche d'un technicien en mécanique automobile. Les meilleures conditions dans le marché à Rimouski. Belle ambiance de travail en bonnie. Informez-vous de notre prime à l'embauche. Vous nous référez un candidat, on vous récompense. Viens nous rencontrer au 380 boulevard Arthur Buis Est ou envoie ton CV à gtremblay@michaudauto.ca.
FM 93 en parle. FM 93.
La chronique financière de Pierre-Yves McSween est une présentation de H. Grégoire Rimouski, votre spécialiste en financement automobile.
17h27. Salut Pierre.
Salut Patrick.
Bon, on va parler de cette nouvelle. Les villes qui cherchent à financer le transport en commun, il y a toutes sortes d'avenues qui sont envisagées comme l'immatriculation des voitures qui ferait un bond vraiment très important, peut-être même aussi les taxes foncières. Qu'est-ce que tu en penses?
Il y a plusieurs choses. Un, il est vrai, puis soyons théoriquement proactifs, il est vrai que quand on utilise une voiture, on utilise l'espace public et c'est l'ensemble de la population qui en paie le prix. Ça, c'est vrai. Il y a une externalité à payer. Maintenant, quand tu es membre communauté aussi, tu utilises les routes, quand tu utilises l'autobus aussi, moins en proportion, mais c'est vrai. Maintenant, l'affaire qui est un petit peu tordue là-dedans, c'est que nous ne sommes pas tous pareils. C'est-à-dire que la population québécoise, montréalaise ou métropolitaine, a une réalité qui est hybride. Il y a des gens qui n'ont pas le choix dans leur modèle d'affaires de rouler en voiture. Quand je dis pas le choix, c'est que ils desservent des services qui sont différents. Tu sais, si tu travailles chez Hydro-Québec, ou à la ville de Montréal, ou pour la, ou je sais pas, n'importe quelle place au centre-ville, là, t'es commis de bureau dans un cabinet comptable, et que tu travailles toujours au même endroit, que t'as la chance d'avoir un des rares appartements collés sur le métro, t'es la clientèle cible de ce message-là. Mais si tu vis, tu sais, un peu dans l'Est, là, en Anjou, mal desservi par un transport rapide, que t'es travailleur autonome, que tu rencontres 3-4 clients d'une journée, est-ce qu'on veut que l'économie t'empêche d'opérer à Montréal ou qu'on taxe, qu'on pénalise parce qu'il faut que tu te déplaces? Et c'est là l'enjeu. C'est de ne plus voir les gens comme des binaires, c'est-à-dire transport en commun ou automobilisme, mais de voir le transport comme un cocktail de transport. Et je t'amène à la ville de Montréal qui dit on manque de revenus, mais on est quand même allé mettre gratuit les services pour les personnes âgées. Mmh. Et là, je pose la question, une personne retraitée est quand même la personne qui est rendue dans une non-obligation de se déplacer à des fins d'affaires, qui est rendue avec du capital qui a été possiblement cumulé sur une vie. Est-ce qu'on veut faire payer aux automobilistes, aux travailleurs, aux gens de la classe moyenne, tout le fardeau fiscal de ça? Et Patrick, je vais aller plus loin. Si t'es bien nanti, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme deuxième résidence? Une résidence ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu peux faire comme choix éditorial? Tu peux aller immatriculer ta voiture dans le chalet.
Puis tu ne seras pas imposé.
Non, pour donc des tu transports vas faire assumer aux gens ici, tu sais, qui vivent ici. Après ça, jusque où tu vas dans ta communauté urbaine de Montréal? Et aussi, la cohérence, c'est-à-dire, c'est quoi notre plan? Si c'est juste d'aller chercher de l'argent, on peut toujours taxer plus. Mais prends l'exemple de la taxation foncière. Si tu es locataire, tu vas payer la taxe foncière d'une façon ou d'une autre des automobilistes aussi, que tu aies une voiture ou non. Alors, si on augmente tes taxes pour financer le transport en commun, est-ce qu'on est à la bonne place? Et est-ce qu'on va vraiment charger aux Montréalais le juste prix? Parce que, je vais te le dire, la taxe foncière, ça n'a pas rapport avec ton utilisation des ressources collectives. Si ta maison vaut 1 million,